Nowatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est proposée avec la participation de Numéricable et de la boutique Nowatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en avril 2011 et c'est l'épisode numéro 59. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, épisode numéro 59. Le Rendez-vous Tech, c'est le podcast bimensuel où on vous parle de tout ce qui fait notre vie technologique et internetienne. Oui, oui, c'est un mot, regardez l'andlico. Moderne. Bon, peut-être pas, je mens parfois un peu. C'est un épisode un petit peu spécial pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je suis avec Cédric, nous sommes deux seulement aujourd'hui. Comment vas-tu, Cédric ?
Bah écoute, un peu malade, mais ça va.
Bon, tu vas réussir à tenir jusqu'à la fin de l'épisode si on fait pas 4 heures ?
Bah, si on fait pas 4 heures, ouais, ça va.
D'accord. Bah, merci en tout cas à Cédric d'être là parce que j'étais en fait indisponible le jour où on fait habituellement le podcast. Donc je me suis dit, est-ce que je le fais ? Est-ce que je le fais pas ? C'est quand même un petit peu compliqué cette fois-ci. Et puis j'ai raté tellement peu de podcasts. Enfin, à vrai dire, je crois que j'en ai raté aucun pour le Rendez-vous Tech et Upload. Enfin, on a raté aucun épisode et donc oui. Je me suis dit on ne va pas commencer maintenant. Il arrivera bien un moment où je vais finir par pas pouvoir en faire un.
Tu vas craquer.
Ça finira. Oui, un jour je vais dire non, c'est pas possible, je veux pas. Mais c'est pas encore le moment est pas encore arrivé et donc c'est aussi un épisode un peu spécial parce qu'on n'a pas la chatroom parce que quand même faut pas déconner, je chamboule plein de trucs. Donc, et comme c'est vrai qu'avoir la chatroom, c'est toujours, ça rajoute un petit peu de complexité, on s'est dit qu'on allait faire beaucoup plus simple aujourd'hui.
Et oui.
Mais on a quand même un programme hyper intéressant avec tout plein de crises sur les réseaux, de panique chez Amazon, chez Sony, chez Apple et plein d'autres trucs intéressants. Donc, chers auditeurs et cher Cédric, je vous propose à tous de nous lancer immédiatement avec les premiers sujets. C'était agité quand même hein, ces deux dernières semaines.
Bah là, c'est un peu un tsunami numérique en fait.
Ouh, j'aime bien. Je crois que tu risques d'avoir trouvé le titre de l'émission dans les premières secondes. Alors, la première vague de ce tsunami, c'était chez Amazon. Et avant de parler de ce qu'on a appelé... Alors, il y a eu plein de gates en fait.
Ah oui, il n'y a que des gates.
Le premier gate, c'était le Cloud Gate. Mais avant de parler de ce Cloud Gate, je vais quand même évoquer deux autres aspects de l'actualité de Amazon ces dernières semaines avec le... Je suis en train de taper ton titre pour pas l'oublier, tsunami numérique. Voilà, parce que non, mais on se rend pas compte, mais c'est des trucs qu'on se dit on va jamais oublier au bout d'une demi-heure d'émission. En fait, au bout de 10 minutes, tu t'en souviens plus.
Voilà.
Maintenant, je tape. Donc, première chose intéressante, des possibilités pour. Enfin, on parle de Kindle, le lecteur d'e-book d'Amazon, bien sûr. Il semblerait que Amazon soit en train de réfléchir à la possibilité et d'implémenter la possibilité pour des librairies traditionnelles. Des bibliothèques de prêter des livres électroniques sur Kindle. C'est-à-dire que votre petite bibliothèque de quartier pourrait vous prêter un livre qu'elle a en stock. Au lieu de vous le prêter en physique, elle pourrait vous le prêter en électronique, dont vous auriez, je ne sais pas, une semaine pour le lire. Elle aurait genre un stock artificiel limité qu'elle pourrait prêter pendant 1, 2, 3 semaines à chaque personne, renouvelable, etc., selon les règles traditionnelles de la librairie. D'un côté, c'est sympa. De l'autre, on se dit que c'est mettre des limites artificielles au numérique qui est infiniment copiable. Mais en même temps, je sais pas, moi je trouve ça bien. Je sais pas pourquoi. Je me dis que oui, c'est une histoire de DRM qui va limiter l'utilisation. Mais je trouve que ça va quand même dans un sens, dans une direction intéressante à explorer. Est-ce que je fais fausse route ?
Non, tu as tout à fait raison. En fait, aujourd'hui, le problème, c'est que avant, avec un CD, on pouvait prêter un CD de musique, par exemple, ou un DVD, ou une cassette vidéo, ou un jeu vidéo. Aujourd'hui, avec la dématérialisation, même si dans certains cas, les coûts ont énormément baissé, on peut de toute façon, enfin, si tu veux, la compensation de la facilité d'utilisation du physique, c'est-à-dire je peux prêter un CD, je peux le ranger dans un coin, il prend pas de place sur mon disque dur et tout ça, a disparu face à des raisons, on va dire, économiques. Aujourd'hui, quand j'achète un jeu en dématérialisé, c'est parce qu'il m'a souvent coûté moins cher. Par exemple, pour l'exemple du jeu. C'est pas le cas pour tout, hein, mais...
Oui, d'ailleurs, mais voilà. J'ai vu, je sais plus, où j'étais à la Fnac il y a quelques jours, et je regardais un livre, je sais plus de quel livre il s'agissait, bref, il était plus cher sur le Fnac Book, ou oui. Pardon, sur le Kindle, je sais plus, ouais. C'était l'un des deux, Fnac Book ou Kindle, que en physique, il coûtait 7 euros à la Fnac et 12 euros sur le Kindle, ce qui est
Et tu ouvres ton iTunes et tu regardes un film comme Harry Potter et tu le vois à 14 euros, tu regardes le DVD, ouais. Il est dans ces eaux-là, quoi. Donc bon.
Ouais.
Mais on perdait en fait un des gros avantages qui était de pouvoir prêter son média. Et je trouve que c'est une bonne idée. Alors évidemment, ça va être sur base de DRM, contraignant, tout ce qu'on veut, mais là, à la limite, le DRM va te permettre finalement d'ajouter une fonction. Tu vois, enfin, c'est plutôt comme ça que je le perçois dans ce cas-là, ouais. Plutôt que me brider en fait. Jusqu'à présent, je pouvais de toute façon pas le faire. Là, en gros, on m'offre la possibilité de le faire sous certaines conditions. C'est un peu comme pour finalement Spotify ou Zune pour Microsoft, qui est en fait, je paye un abonnement et j'ai des morceaux de musique illimités, mais c'est des DRM qui me bloquent, entre guillemets.
Oui, qui m'empêchent de les copier, de les prêter,
de tout ça, mais j'en ai quand même l'usufruit quasiment illimité, parce que si j'arrête l'abonnement, je l'ai plus. Oui. Mais j'ai quand même le droit de faire ce que je veux avec. Je peux l'avoir sur mon baladeur et en même temps sur mon ordinateur et les écouter quand je veux, ou sur ma Xbox par exemple pour Zune. Je peux regarder, enfin écouter tout ça un peu partout. Donc là, je pense que c'est une bonne idée, et à la limite, c'est obligé, ça va passer par des DRM, sinon c'est trop facile. Hein. Mais pour la bonne cause, quoi.
Si notre ami, notre camarade Corben était là, il nous dirait, mais attends, le plus simple, c'est de le mettre sans DRM du tout,
oui.
De le mettre en EPUB, format libre et ouvert, et si tu veux le prêter à quelqu'un, entre guillemets, tu lui files, et ensuite c'est lui, s'il l'aime, c'est à lui de l'acheter.
Oui, le problème c'est que quand on te l'a filé complet en EPUB, tu vas pas l'acheter.
Peut-être.
Non, il faut arrêter. Non,
là, c'est sûr que la plupart des gens ne l'achèteraient pas. Il y a des gens consciencieux qui pourraient aller acheter. Moi, j'avoue qu'il peut m'arriver, par exemple, d'écouter un album, sur Spotify ou ailleurs, ou par exemple, ou sur Grooveshark. Enfin, bon, il y en a plein.
Ouais.
Et si c'est un truc que j'aime vraiment, je peux aller ensuite l'acheter carrément pour me dire je soutiens l'artiste. En même temps, ce qui est frustrant, c'est que si t'achètes la galette, si t'achètes le CD, tu sais qu'il va y avoir 25 centimes qui vont aller à l'artiste sur les 10 euros que t'as payé. Donc.
C'est ça qui est embêtant. Mais tu sais, moi, on va peut-être me jeter des cailloux, mais j'achète vraiment ma musique de façon légale. Mes morceaux de musique, j'ai pas un seul MP3 piraté, je mets quelqu'un en défi d'aller venir me les chercher.
J'achète vraiment toute ma musique.
Je l'achète sur Amazon et sur iTunes, sur les deux. Sur iTunes, avant, j'achetais pas, j'ai acheté qu'à partir du moment où ils ont fait sauter les DRM, parce que je voulais pouvoir lui l'écouter ailleurs que sur un iPod. C'est bête à dire, mais bon, voilà. Et j'ai quand même un abonnement Zune illimité, tu vois.
Ouais.
Donc c'est ça qui est un peu le paradoxe, c'est-à-dire quand vraiment j'aime le morceau, je veux le posséder et l'écouter partout ailleurs, je fais l'effort de l'acheter dans iTunes, tu vois. Ouais. Ou sur Amazon.
Moi, j'achète pas sur iTunes. J'achète même pas à la Fnac. Je passe par Amazon en les CD, ou par play.com qui est très bien, ou play.co.uk. Enfin bref.
Ouais.
Et tu peux avoir les CD genre à la moitié du prix de la Fnac, et du coup je les achète. Mais ce qui est marrant, c'est que souvent quand je les achète, je les mets dans mon disque, dans mon ordinateur, je les rip, et ensuite je les mets sur l'étagère et je ne les sors plus jamais, quoi.
C'est ça.
Enfin bon, bref. Bon, c'était juste une petite aparté pour parler des librairies, enfin des bibliothèques plutôt, voilà encore un anglicisme, qui pourront prêter des livres. Un autre truc, c'est que visiblement, Amazon s'apprêterait à ouvrir le e-book store, donc le magasin de livres Kindle, en Allemagne. Donc on peut se dire qu'ils sont en train de s'attaquer aux autres langues que l'anglais, et peut-être qu'on va bientôt avoir le Kindle e-book store en français, avec une vraie division France sur l'appareil, ça serait pas mal.
Eh bien, je leur souhaite bien du courage, parce qu'avec les syndicats du papier, de l'édition et tout ça en France, ils vont bien s'amuser.
C'est possible. Mais en tout cas, ça montre qu'une fois de plus, Amazon est en train de d'étendre sa sphère d'influence. Et à mon avis, ils vont sortir une tablette un jour qui va faire beaucoup, beaucoup de choses. Et ils auront déjà tous les éléments. Comme on en parlait la dernière fois, ça risque de faire mal. Et du coup, ils ont peut-être intérêt à travailler, à redorer un petit peu leur blason. Parce qu'un autre truc qui a fait mal, c'était la panne du service de cloud de Amazon, qui a eu lieu il y a peut-être une dizaine de jours et qui a été absolument monumentale, qui a eu des répercussions sur la toile entière. Et est-ce que je te laisse la détailler parce que je sais que tu aimes bien ce genre de choses, Cédric, ou est-ce que tu veux que je fasse ?
Je préfère m'attaquer moi au PSN après.
Ah d'accord. alors en fait, il y a un service dont on parle régulièrement ici, qui est le service Elastic Cloud Compute, EC2. On l'appelle Amazon Cloud Computing généralement, et c'est un service qui offre à des sociétés, hein, c'est pas un service pour les utilisateurs finaux, qui offre la possibilité d'héberger leurs données, leurs bases de données, etc., dans le cloud. Et c'est un service qu'utilise énormément de sociétés. Or, il se trouve que l'un de leurs centres de données a été complètement dans les choux il y a quelque temps, et que ça a mis par terre pendant plusieurs jours. Au début, on s'est dit oui, bon, ça va durer juste 24 heures, 2-3 heures. Puis finalement, ça a duré 24 heures et ça a mis même un petit peu plus de temps à revenir complètement à jour parce qu'il a fallu beaucoup, beaucoup de travail pour remettre ce centre de données en état. Et des sociétés qui ont été affectées sont comptées parmi les sociétés les plus... actifs du net, pas les plus grosses sociétés du net, mais c'est quand même pas des petits sites dont personne n'a entendu parler. Il y a Foursquare, Quora, Hootsuite, Scavenger, Reddit, etc., etc. Et il y a même des sociétés qui ne sont pas celles-ci, mais d'autres qui étaient clientes de sociétés qui utilisaient les services d'Amazon pour leur stockage. Bref, ça a fait énormément de bruit et ces sites étaient totalement inaccessibles pendant un jour, voire plus, ce qui, en termes de commercial pour ces sites, est extrêmement important et qui, en termes de fiabilité du service du cloud en général, qui est extrêmement à la mode en ce moment, comme on le sait bien sûr, est extrêmement dommageable parce que du coup, il y a une immense partie de l'industrie qui s'est mis à se poser des questions sur la fiabilité et le fait de savoir s'il était judicieux ou non de travailler entièrement dans le cloud. Parce que s'il y a un centre de données qui saute et que tous les sites sont inaccessibles, c'est un danger qu'il faut prendre en compte.
C'est ça. Donc, tempête dans ton data center, en fait.
Voilà, exactement. Alors, est-ce que moi j'ai une opinion sur la chose et sur la viabilité du cloud en général, mais j'aimerais bien entendre ce que tu as pensé de cette histoire, toi.
Ben...
parce que mine de rien, je m'excuse une toute petite seconde, mais nous aussi chez NoWatch, on est basé sur le cloud évidemment, puisqu'on a des services qui reposent sur, enfin que ce soit un site web ou le téléchargement de podcasts surtout. Qui repose finalement sur une infrastructure d'internet,
sur de la redondance de données sur plusieurs serveurs et tout ça. Mais c'est vrai que on nous a vendu le cloud comme la solution ultime pour ne plus jamais perdre ses données. D'ailleurs, on le voit bien, Amazon dans ses dernières publicités sur son service Cloud Player et tout ça là, a fait une pub du genre votre ordinateur disparaît tout ça, mais vos données sont pas perdues, elles sont chez nous et tout ça. Enfin voilà, c'était ça en gros la publicité pour l'Amazon Cloud. Tu sais, dès que tu achetais un morceau de musique, on te proposait de stocker tes morceaux de musique et même d'autres documents gratuitement en fait chez eux. On nous l'a vendu comme quelque chose d'hyper fiable, mais j'ai envie de dire, regarde, par rapport à ton disque dur local que tu as à ta maison, certes, le risque de panne sur ton disque dur physique est beaucoup plus élevé que celui du cloud, puisque il y a tout un système de redondance, les disques doivent être sauvegardés et re-re-re-re-re-sauvegardés. Mais finalement, comme pour tout ce qui est numérique, on a un gros problème de pérennité de l'information, et finalement, si la donnée numérique est beaucoup plus périssable que la donnée physique, en fait. C'est bête à dire, mais dès que le numérique est apparu, tu vois, avec les CD, les DVD, qui ont une durée de vie limitée aussi, hein, faut pas croire. Hein. Ouais. D'ailleurs, les tout premiers CD, aujourd'hui, il y en a la plupart qui ne sont plus lisibles. Les tout premiers CD. Donc, pour tout te dire, je pense que On est sorti du papier parce qu'on se disait c'est super périssable et tout ça, sauf qu'on a des manuscrits papier qui aujourd'hui sont toujours lisibles et largement, bon, ils font dans des états de conservation qui sont plus ou moins bons, mais voilà. Alors que la donnée numérique, si le cloud pète, demain, je sais pas moi, une attaque nucléaire et le cloud pète chez Amazon.
Heureusement que Jérôme n'est pas là parce que...
La théorie du complot.
Non, le cloud pète, je pense que ça lui aurait inspiré
oui,
des choses.
Oui, ça lui aurait inspiré des choses, oui. Le coup Saint-Péter. Voilà. Mais imagine que le truc, enfin que, si tu veux, la donnée numérique est infiniment plus en danger que la donnée physique, pour moi en tout cas. Donc si tu veux, je fais pas plus confiance au cloud que je fais confiance à mon disque dur, quoi, finalement. Mais c'est de la donnée numérique, donc j'ai accepté le fait qu'il va pas falloir que j'imprime toutes mes photos pour ne plus jamais les perdre, tu vois.
Ouais. Je sais pas, moi je suis quand même, je trouve que il y a une contre-réaction qui est un petit peu trop violente quand même, parce qu'il y a des gens qui se font les apôtres de l'anti-cloud et qui disent « Ah voilà, tu vois, qui profitent de cette occasion pour dire « Ah bah voilà, le cloud c'est pas sûr non plus, donc c'est, ça veut dire que rien n'est sûr et voilà, vous vous trouvez bien embêté, vous pensiez malin avec vos histoires de cloud, et ben non, en fait, ça marche aussi mal que le reste. » Mais d'une part, comme tu le disais, c'est moins périssable quand même qu'un disque dur chez vous.
Bien sûr.
Parce que un disque dur, il y a un taux
de panne. Voilà, au bout de 2 ou 3 ans, si ton disque dur tourne en permanence pour faire du time machine, par exemple, sur ton Mac, il y a de fortes chances pour que ton disque dur lâche, tu vois.
Oui, exactement. Et donc, d'une part, il y a ça, et d'autre part, les données qui sont dans le cloud, bon, ça pose d'autres problèmes, mais rien n'est complètement sûr et complètement sécure à fond et jusqu'à la fin des temps. Mais si vous avez vos données dans le cloud, déjà, c'est peut-être un petit peu plus sûr que si c'est chez vous. Et en plus, si vous faites le secret de tout ça, c'est la redondance. C'est-à-dire que si vous avez vos données chez vous une ou deux fois avec des systèmes de copie et en plus sur le cloud avec des systèmes d'archives, il y a des trucs
plus
comme Carbonite, par exemple.
Plus non, mais c'est Dropbox. Vrai. Plus...
Non, mais moi, par exemple, j'utilise Carbonite, qui est un système de sauvegarde en ligne qui vous permet de sauvegarder toutes vos données, des gigas et des gigas de données facilement. Dropbox pour certains trucs. Je fais des sauvegardes. Bon, c'est des trucs importants, hein, des documents importants ou des trucs sur les podcasts ou sur NoWatch, des trucs que je veux pas perdre.
Ouais, mais
j'ai
demain,
genre un
regarde.
Disque dur en plus et,
demain, une bombe électromagnétique qui tue tous les systèmes informatiques, tu perds tout.
Dans le monde entier ?
Ben ouais.
Ah oui, non, oui, c'est sûr. Et si la levée des cafards zombies fait que
non,
les cafards s'attaquent à tout le monde.
Éruption solaire, ça pose des problèmes électromagnétiques. Pim, il y a tout qui tombe en panne, toute l'électronique, et ben voilà.
Écoute, c'est vrai.
Plus des photos de vacances. Bon, ok, c'est la merde partout, c'est le blackout général, plus d'électricité, plus rien, mais t'as plus tes photos de vacances.
C'est vrai. Et c'est pour ça que je dis que tous ces systèmes ne sont, aucun d'entre eux n'est totalement sûr. Et d'ailleurs, on peut penser à tout plein de scénarios de ce genre-là. Enfin, des invasions d'aliens, la Terre qui implose suite à une expérience mal gérée par des scientifiques fous. Non, c'est sûr, il y a plein de possibilités pour nous faire perdre nos données, ça c'est certain.
Non, mais voilà, enfin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une donnée numérique de toute façon n'est pas éternelle, ça c'est clair et net. Elle vous survivra très certainement si elle est dans le cloud, mais si vous continuez à payer votre abonnement après votre mort. Mais
tu sais, même plus que ça, la leçon que ça a donné, parce qu'il y a plein de sociétés qui utilisaient ce service, et il y en a plein qui ont eu des problèmes, mais il y en a aussi plein qui n'ont pas eu de problème. On pense notamment à Netflix, qui est un énorme utilisateur. D'ailleurs, il est visiblement le plus gros service de vidéos par abonnement au-delà des services de câble aux États-Unis maintenant Netflix. Mais bon, c'est une petite parenthèse, mais Netflix avait prévu son réseau avec de la redondance justement pour le cas où l'un des centres de données d'Amazon crasherait. Et les autres sociétés qui ont vraiment eu des problèmes n'ont pas prévu cette redondance. Donc, ils n'ont pas suivi les règles du cloud un petit peu de dans le pire des cas. Netflix, qui a sans doute un administrateur réseau, un gestionnaire de tout ça particulièrement avisé, il s'est dit « on va parer au pire, eh ben on va avoir des systèmes de redondance qui vont nous mettre sur plusieurs serveurs différents, plusieurs centres de données différents ». Et quand celui-là où ils avaient des données a été indisponible, eh ben ils ont pu se retourner quand même. Donc il y a quand même eu quelque part dans l'infrastructure qu'ils avaient designée, dans l'infrastructure que les sociétés qui ont eu des problèmes avaient designée, il y avait un problème de conception à la base, tu vois.
Ouais, c'est pas juste ceinture bretelle. En fait, ils ont pas mis leurs œufs dans le même panier, et puis l'administrateur réseau a appuyé sur un bouton et hop, il a tout basculé sur l'autre système, tu vois, sur lequel il s'en servait que de sauvegarde.
Ouais.
C'est certainement ça, tu vois.
Donc, je pense que c'est un bon signal d'alarme, ce problème. Ça a quand même remis les pendules à l'heure. Ça a arrêté peut-être un petit peu la fête de ouais, de toute façon, je le mets à un endroit sur le cloud et tout va bien. Et je pense que les gens vont désormais se préparer au pire et ils auront des systèmes redondants qui permettront d'éviter ce genre de problème. Donc moi, je vois ça comme quelque chose de complètement, complètement négatif et la fin. Enfin, personne n'a appelé, n'a dit que c'était la fin du cloud, mais enfin, il y a quand même des gens qui étaient un petit peu.
Oui, c'est toujours pareil. Hein. Ouais. Dès qu'il y a un truc qui va pas, on se met à aboyer. Et justement, en parlant de truc qui va pas, si on parlait de Sony.
Mais franchement, on rigole, mais c'est pas marrant, quoi. Parce que
c'est franchement
vraiment,
pas drôle parce que j'ai reçu le mail tout à l'heure qui dit que il faut que je surveille mon compte bancaire parce que potentiellement ma carte bleue a fini entre les mains, mon numéro de carte bleue a fini entre les mains de personnes malveillantes. Pour faire simple, c'était le 16, je crois. Non, un peu après 19, peut-être.
Ouais, 19. Ouais.
Voilà, le 19, en fait, il s'est passé un truc assez étrange. Dès qu'on voulait se connecter au PlayStation Network, on avait un joli message d'erreur, comme sait le faire Sony, c'est-à-dire erreur 8542C73. Bah, j'exagère, c'est pas exactement ça le chiffre, mais c'était vraiment ça, il y avait juste écrit ça. En gros, c'était pas accessible. Alors la communication de Sony, ça a été très simple, ça a été de dire le PlayStation Network est en maintenance, on s'attelle à rétablir le service. Voilà comment ça a commencé. Tu es d'accord avec moi jusque-là ?
Oui, tout à fait.
Voilà, ça a commencé comme ça. Puis, au bout de 5 jours, quand même, on a commencé à se poser des questions parce que le service n'était toujours pas revenu. Et Sony continuait.
On savait qu'ils étaient.
Qu'il y avait un problème.
Ouais. Non, mais on savait qu'il y avait une attaque sur le service.
Oui, 5 jours après, en fait, ils l'ont annoncé.
Ils l'ont annoncé, mais entre temps, on avait déjà entendu le fait que le 22, si je ne m'abuse, oui. Ils ont confirmé que,
il y avait eu une attaque vis-à-vis du PlayStation Network et qui s'attelait à remettre le service en place. D'ailleurs, c'est PlayStation Network et Curiosity aussi, leur système de VOD, tout ça, de contenu en ligne.
De musique et tout ça.
Ouais. Donc là, ils ont commencé à avertir les gens que potentiellement il y avait eu un souci, mais on pensait qu'il y avait une attaque type Anonymous, déni de service ou j'en sais rien, qui avait fait tomber le service et que ça avait endommagé genre des bases de données, qu'il fallait les reconstruire et tout ça. Rien de grave finalement. Et puis Sony, grand communicant, décide finalement d'avouer que éventuellement il y a eu une intrusion et que des données ont été. D'abord, ils ont dit qu'il y avait eu une intrusion, du coup. Puis, aujourd'hui, en fait, les choses sont un peu précipitées, je pense, sous la pression aussi des utilisateurs. Et là, c'est beaucoup moins drôle parce que, a priori, ils ont eu accès à des données de bas niveau sur les serveurs et tout ça, les gens qui ont piraté le PSN. Et du coup, c'est pas compliqué, hein. Toutes les données que vous avez renseignées sont potentiellement mises à disposition de ceux qui ont dérobé ces infos-là, donc date de naissance, nom, prénom, numéro de carte bleue,
alors,
adresse éventuellement.
Numéro
voilà.
De carte bleue, on n'est pas en fait,
ah,
ça serait les quatre derniers chiffres du numéro de carte bleue, et même ça c'est pas sûr, et dans tous les cas, ils n'ont pas accès au numéro de confirmation qui est au dos. Donc paniquez pas non plus tout de suite.
Non, il faut pas. Voilà. Mais certains sites autorisent les paiements sans le cryptogramme. Hein, donc voilà. Des services de location, par exemple, en ligne, ce genre de trucs. Il y a, par exemple, des services de location type vidéo pour adultes, tu vois, genre.
D'accord.
Il y a des gens qui sont peu scrupuleux sur le fait qu'ils aient besoin du cryptogramme, si tu vois ce que je veux dire.
Forcément.
Ouais. Et même au-delà de ça, tu dis que les quatre derniers chiffres et tout ça, sauf que. Si Sony indique dans l'email que j'ai reçu qu'il faut que je surveille mes comptes en banque, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas que les quatre derniers chiffres. Et là, ça pose un vrai problème, ça veut dire que les données ne sont pas cryptées chez eux. C'est comme ça que je l'interprète, en fait.
Moi,
je pense
qu'ils sont un petit peu en train de faire un excès de prudence et qu'ils disent à tout le monde, faites gaffe, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé parce que... Alors là, tu as raconté comment ça s'est passé de l'extérieur et effectivement, c'était particulièrement inquiétant. De l'intérieur, d'après ce qu'on a pu apprendre, visiblement, donc il y a eu cette attaque qui a commencé. À ce moment-là, Sony quand ils se sont rendus compte que c'était une attaque, dont on n'a toujours pas les détails, hein, on sait toujours
non,
pas qui on a suspecté effectivement Anonymous ou même George Hutz dont on a parlé récemment, qui était en procès avec Sony.
Il vient d'être embauché par Sony.
C'est vrai ?
Oui.
Et ah, j'avais pas vu cette news, moi.
Oui, oui, donc du coup, il y a peu de chances que ce soit lui. Enfin,
t'es sûr qu'il a été embauché par Sony?
Il me semble qu'il a eu cette proposition-là. En fait, j'avais vu ça et du coup, il avait dit j'arrête de me concentrer sur le. Et en fait, il a été embauché pour renforcer la sécurité des.
Ah, mais j'avais même pas.
Il est passé à l'ennemi, en fait. Enfin,
d'accord.
C'est comme ça que ça se voit dans la communauté des hackers de PS3.
D'accord. Bah, tu m'apprends quelque chose. Mais
ben voilà.
Donc, effectivement, on ne sait pas d'où ça vient ou quel était vraiment le but, mais Sony, voyant ça, se dit oula, il se passe un truc, on ferme le réseau. Bon, a priori jusque là ça va. Ils ont engagé une firme extérieure qui est venue analyser ce qui se passait pendant les attaques pour comprendre exactement ce qui se passait. Et ça, forcément, ça peut pas se faire en 2 heures. Je veux dire, il faut quelques jours d'analyse et de tests et de, donc c'est vraiment pas évident à faire. Et à partir du moment où ils ont vraiment été sûrs de ce qui se passait, ils ont envoyer un message officiel. Alors effectivement, ça a peut-être pas été non plus.
Il y a un
plus...
problème de transparence quand même, parce que dans les premières heures, c'est le service est en maintenance, on redémarre dans quelques minutes. Alors que quand ils l'ont coupé, ils savaient qu'il y avait un problème de sécurité,
mais oui,
puisqu'ils l'ont coupé.
Ils savaient peut-être pas exactement. Disons que effectivement, j'imagine qu'au moment où tu subis une telle attaque, tu peux pas estimer exactement le temps.
Oui, mais
je sais
bien,
mais
au-delà de ça, tu peux très bien dire le PlayStation Network, enfin on a une attaque sur les services PlayStation Network, on est obligé de couper momentanément le système de jeu en ligne et la boutique et machin et tout ça pour tirer ça au clair et redémarrer le service comme il faut, mais pas dire c'est une opération de maintenance, vous inquiétez pas, on redémarre dans quelques minutes quoi. Limite
c'était
peut-être
ça. Peut-être qu'il le pensait sincèrement à l'origine, peut-être pas, mais enfin ce qui est clair c'est que la communication a été un petit peu hasardeuse, et ce qui est en tout cas encore plus clair, c'est que les conséquences sont dramatiques pour Sony et pour leurs utilisateurs, parce que d'une part, on ne sait pas exactement ce qui a été volé, les noms, les adresses, c'est sûr, les numéros de carte bleue, peut-être, on n'est pas certain, les mots de passe, a priori, ont été volés aussi, donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas cryptés sur leur serveur, ce qui est un gros problème.
Surtout si tu utilises le même mot de passe pour ton Gmail, ton Twitter,
donc
avec la même adresse.
Si vous avez un compte sur le Sony PlayStation Network et que vous utilisez le même mot de passe pour ce service et pour d'autres, alors déjà, c'est pas une bonne idée à la base, mais maintenant, il faut le changer immédiatement là où vous l'utilisez. Et accessoirement, le service n'est toujours pas revenu en ligne.
Non.
Donc,
a priori, le temps de retour est vraiment incertain et il n'est pas dit que ça revienne dans la semaine qui vient en tout cas. Donc,
ce qu'ils ont dit, c'était le service est en cours de reconstruction. Alors, on ne sait même pas ce que ça veut dire.
Ouais, en fait, moi, ce que je déplore, c'est pas. Enfin, je veux dire, il y a des problèmes de sécurité. Ok, c'est bon, on le sait, machin, tout ça. À la limite, je peux presque le comprendre. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il joue pas la transparence sur la communication. Pour moi, c'est pas transparent, en fait, ce qu'il raconte. Je veux dire, c'est des services que tu payes en plus quand tu es PlayStation Plus. C'est des services que tu payes et tout ça. Tu as quand même besoin d'avoir des infos.
Ouais, mais moi, quand il y a ce genre de crise, enfin, tu vois, maintenant, ils ont commencé à communiquer 5 jours après. C'est pas qu'ils ont laissé passer un mois. Et quand il y a ce genre de crise, tu es hésitant à communiquer trop tôt parce que tu veux pas dire une connerie.
Mais là, ils ont communiqué tôt et ils ont dit une connerie. Parce que, excuse-moi, mais quand tu dis le service est en maintenance, tu mens. Enfin, tu mens, plus ou moins. Tu mens pas.
Non, c'est pas
vraiment
c'est pas un mensonge. Il est en maintenance.
Et tu dis que c'est momentané et que ça va revenir. Et que 5 jours plus tard, il n'y a toujours rien, et qu'il a fallu quand même 3 jours avant que tu dises « En fait, on a été hacké. » Et en plus, eux-mêmes disent « On a coupé le service parce qu'on a remarqué qu'on s'était fait hacker. » Donc pour moi, c'est « On a un problème de sécurité sur le PlayStation Network, on le coupe. Merci de bien vouloir nous excuser. » Patati patata.
Tu sais,
pour moi, ça se passe comme ça, en fait.
Je comprends complètement ce que tu dis. Et d'un certain côté, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, je pense que la frustration générée par la coupure du service aurait été difficile à calmer, même s'ils avaient communiqué différemment. Tu vois, les gens disent ah oui, mais je suis énervé parce que.
Mais aujourd'hui, ça n'a pas rajouté de l'eau au moulin justement des gens qui se plaignent.
Peut-être. Ouais.
Tu vois, moi aujourd'hui, j'ai entièrement perdu confiance en PlayStation Network quand je vois ça, et au fond de moi, je me dis que ça pourrait très bien arriver sur le Xbox Live. Mais
bien sûr. Oui.
D'ailleurs, ils sont en train de renforcer leur sécurité. Mais tu vois, je sais pas. Je trouve que on m'a un peu pris pour un idiot pendant 5 jours où, en gros, on m'a juste dit ça va revenir. Et là, aujourd'hui, j'en reçois un mail qui me dit votre numéro de carte bleue a peut-être été volé, faites attention à vos relevés de compte, machin, voilà. Bon, enfin, je trouve que c'est un peu, on passe de on est en maintenance, on revient, à bon, excusez-nous, mais en fait, c'est plus grave que
Non,
ça, on
je
nous a fait
comprends, je
cambrioler,
comprends.
quoi.
Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, je me dis que moi, je préférerais qu'ils s'attellent à la sécurisation de leurs données ou enfin à comprendre ce qui s'est passé
Oui,
plutôt
oui,
qu'à
oui.
communiquer. Tu vois, dans ce genre de cas, moi, je suis toujours peut-être que je suis trop zen ou que je suis trop compréhensif, mais tu vois, si le PlayStation Network, c'est un autre truc qui a été beaucoup dit et moi j'ai souvent ce genre de réaction, mais le PlayStation Network est pas disponible. Bon, ok, une journée, 2 journées, et puis quand tu te rends compte qu'il y a
C'est presque une
véritablement un gros
habitude.
problème, tu laisses tomber, tu reviens quelques jours plus tard. Je comprends que c'est frustrant parce que tu veux y jouer, mais
Surtout avec la sortie de Portal 2, tout
bien
ça,
sûr, bien
machin.
sûr, oui. Oui, non, mais c'est certain, il y avait Mortal Kombat, Portal 2.
Ouais.
Non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Enfin, ce qui est clair, c'est que la
Mais c'est
confiance est
du
très
jeu, ou
sérieusement.
à la limite, comme tu dis, c'est que du jeu. C'est pas grave si pendant une
Ouais.
semaine je peux pas jouer à Portal 2 sur ma PlayStation parce que j'ai pas pu le télécharger. À la limite, je m'en fous. Par contre, qu'on ait volé toutes mes coordonnées, ma carte bleue, machin et tout ça, ça par contre, je m'en fous un peu moins, tu vois.
Je suis d'accord. Je suis d'accord,
Et
mais en même
c'est sur
temps.
ça que je. Du coup, tu vois, il y a 5 jours de ça, quand ils ont subi l'attaque. Si déjà ils avaient pris, parce qu'en plus ils s'en sont même pas sûrs que les numéros ont été volés de cartes bleues et tout ça, mais bon, comme tu
Ouais.
dis, joue la sécurité, mais à la limite, si te préviennent avant, tu peux prendre toi des dispositions auprès de ta banque, parce que là, ça fait quand même plus d'une semaine, enfin, ça fait une semaine, et depuis, il faut que j'aille vérifier mon compte en banque, vérifier s'il n'y a pas eu des
Oui, mais
prélèvements
encore une
faits.
fois, ça, c'est des trucs que tu peux pas t'en rendre compte en une demi-seconde. Tu vois, il faut que tu analyses ce qui s'est passé, que tu analyses l'attaque, que tu. Enfin, tu
Oui,
peux
oui.
pas dire. Tu vois, c'est pour ça que je dis, malgré tout, c'est la frustration de tout cet ensemble de choses qui s'est passé qui génère cet énervement et qui serait difficile à calmer de toute façon, même s'ils avaient communiqué différemment. En tout cas, ce qui est certain, c'est
En tout
que
cas, mon frère a acheté une
c'est.
Xbox ce week-end. Et c'est vrai en plus.
Oui, non, mais je peux comprendre, je peux comprendre. Moi, de toute façon, j'ai les deux, donc le problème se
Pareil.
pose pas. Mais bon, je dis, ce qui est certain, c'est que la confiance en Sony a été sérieusement érodée et qu'ils vont devoir travailler très très dur pour remonter pour corriger le tir. Et d'autre part, ça, c'est extrêmement dommageable, certainement pour eux, et ça va avoir des conséquences financières. Et ça, c'est certain. Moi, je dirais, malheureusement, c'est le genre de truc. Enfin, bon, je vais faire une comparaison qui est certainement. C'est quelque chose d'incomparable, mais enfin, où que ce soit, quand il y a un accident, on se rend compte à force, à posteriori qu'on aurait pu l'éviter en faisant ci, ça, ça et ça. Et tout le monde pointe du doigt, tu vois, que ce soit un accident, je sais pas, un accident de train ou un. Oui, parfois il y a des trucs qui ont été mal faits, et en l'occurrence le cryptage
Alors ça, c'est la base.
Non, mais c'est sûr, mais il y a énormément de gens qui le font pas, et il faudrait être.
Mais Sony, enfin,
Oui,
on parle pas de Monsieur Tartempion qui a ouvert son forum la semaine dernière, tu vois. On parle
Non,
de
mais c'est
Sony
sûr,
qui est
c'est
censé
sûr.
être un habitué de ses services et qui gère des données sensibles.
C'est vrai,
Enfin,
c'est vrai.
voilà, c'est juste ça, quoi.
Mais encore une fois, on n'est pas certain qu'ils aient été volés. Et ils disent les 4 derniers chiffres, ça se trouve, ils ne cryptent pas et parce qu'ils stockent uniquement les 4 derniers chiffres. Et moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il n'y avait que les 4 derniers chiffres qui étaient accessibles. Donc tu vois, on porte des jugements sur des trucs, on n'est même pas sûr exactement de ce qui s'est passé. Et il faut laisser le temps à toute cette histoire de se démêler pour qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé. On ne sait même pas qui a attaqué, comment, pourquoi, enfin.
Non, tout à fait, mais moi je trouve qu'en termes de communication, ça a été voilà, en plus ils savaient que ça frustrerait les gens, et je trouve que dans ces cas-là, on joue la transparence, quoi. Enfin, pour moi, ça me semble normal. Mais Sony, de toute façon, par le passé, a fait preuve de soucis de communication aussi dans le même genre, et voilà, bon, on se refait pas, quoi.
Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu n'es pas le seul à avoir cette opinion et ça risque d'avoir des conséquences sur la structure de Sony à l'avenir.
Ouais.
Une autre grosse polémique qui a animé la sphère
Yeah.
technophile. Cédric se délecte déjà de toute cette histoire.
Ah oui.
C'est cette histoire du location gate, donc la découverte selon laquelle Apple vous espionnerait dans vos déplacements, espionnerait votre localisation à partir de votre iPhone ou votre iPad ou même votre iPod en permanence et saurait tout le temps où vous êtes et vous traque à la loupe, non, je ne sais pas. Bref, vous traque votre position en permanence.
Par satellite. Il nous observe.
Exactement. Donc,
on est sur écoute là. Fais gaffe, Patrick, à ce que tu dis.
Oui, on est sur écoute par quelques auditeurs de toute façon. Alors, est-ce qu'on commence la même chose en expliquant ce qui s'est passé sur la toile et ensuite en donnant l'explication réelle, parce que là, pour le coup, on l'a. Ou est-ce que on commence directement en expliquant le pourquoi du comment?
Bon, non, on peut commencer par l'histoire.
Ouais, ok.
Ouais.
Écoute, vas-y pour l'histoire et puis moi j'expliquerai le pourquoi du comment en essayant d'apparaître plus intelligent après.
Oh, tu parles. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est tout bête. Hein. C'est quelqu'un qui s'est amusé à bidouiller sur les fichiers de sauvegarde de son iPhone et il s'est rendu compte que il y avait des données stockées qui étaient tout simplement ses déplacements. Il y avait des espèces de logs, quoi, en gros, qui enregistraient toutes les positions de son iPhone. Et ça n'était pas crypté, c'était en clair sur son ordinateur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Depuis des mois et des mois, et voire...
Depuis que l'iPhone est iPhone, j'ai envie de dire. Enfin, depuis qu'il a rencontré une carte SIM. Ou iTunes. Qui sait? Et certaines fois, les positions sont précises, d'autres beaucoup moins. Et c'est pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, les positions...
Ah, tu donnes déjà l'explication ?
Non, mais j'explique juste ce que contiennent les données qu'il a découvert. Mmh. En fait, les positions sont des positions enregistrées via la triangulation Wi-Fi, GSM, et ainsi de suite. Il y a un petit outil qui a été développé, qui s'appelle iPhone Tracker, et qui permet justement de consulter ces logs-là, et d'afficher précisément sur une magnifique carte Google Maps tous ces déplacements passés. Donc voilà, en gros, c'est ce qui a été découvert.
Alors là, panique sur la toile.
Ah, ces données sont envoyées chez Apple, les salauds!
À vrai dire, personne n'a vraiment dit ces données sont envoyées chez Apple,
mais que fait Apple de ces données, plutôt?
Ouais, c'était vraiment, mais... C'est le truc vraiment, enfin, tu découvres ça et tu te dis, mais attends une seconde, tu veux dire que tous mes déplacements sont logués sur mon téléphone et sur mon ordinateur depuis que j'ai le téléphone? C'est...
Du coup, ils savent que je tweete aux toilettes.
C'est effectivement une découverte scandaleuse, quoi. Tu te dis, mais c'est invraisemblable comme atteinte aux données privées. Et je suis sûr que vous qui nous écoutez, si vous n'avez pas entendu parler de cette histoire, vous vous dites, mais attends une seconde, tu veux dire que quand j'ai dit à ma femme que j'étais chez des amis hier et qu'en fait j'ai fait un aller-retour rapide au village du coin, au village d'à côté pour aller voir mademoiselle Olga, péripatéticienne de son état, si elle observe mes données de localisation sur mon téléphone, elle va pouvoir le savoir parce qu'en plus elles sont sur l'ordinateur en clair.
Oh. Et là, saloperie.
Donc, panique.
Et oui.
Tu vois défiler ta vie devant toi avec mademoiselle Olga, les enfants, tout
là,
ça.
Voilà, t'imagines déjà le divorce, que tu vas être ruiné, tu vas devoir vendre ta maison et tout ça. Enfin, voilà.
Non, mais on plaisante, mais c'est vrai que c'est clairement une atteinte à la privatisation des données, enfin, aux données privées et personnelles qui est totalement scandaleuse. Maintenant.
Oui, alors qu'il suffit tout simplement d'installer MobileMe sur le téléphone de madame et de se connecter et d'aller consulter sa position géographique. Je veux dire, à un moment donné, pourquoi se prendre la tête avec des logs?
Exactement, installer MobileMe sur le téléphone de madame et vous saurez si elle est allée voir, non pas Olga, mais...
vous la suivez à Latitude en loose day.
Dino.
Google Latitude.
Dino, les beaux Brésiliens. Voilà, c'est ça. Je sais pas pourquoi je fais un accent italien en parlant.
Je sais pas.
Brésilien.
Et puis dis-moi, ça fait plus italien que brésilien.
Bah oui, c'est pour ça que j'ai fait un accent italien et puis pas brésilien, donc bref. Donc, en fait, expliquons ce qui s'est... Alors, bon, donc la toile s'est embrasée, mais comment, pourquoi? Certains ont dit, mais attendez une seconde, ces données existaient déjà depuis longtemps. On a déjà découvert, enfin, on avait déjà parlé de l'existence de ce fichier il y a plusieurs mois avec l'arrivée du système 4.0, elles avaient été changées de place, mais elles existaient déjà avant ailleurs, et elles ont été changées de place pour que toutes les applications puissent y avoir accès. Mais alors pourquoi les garder pendant... Enfin bref, on savait pas du tout. Finalement, Apple a donné aujourd'hui, on est mercredi 27, a envoyé un document de questions-réponses qui explique un petit peu ce que c'est que c'est ce fichier et qui essaye de se disculper.
Ouais, c'est Steve qui fait les questions et les réponses, quoi.
Un peu, oui. Disons que ça explique beaucoup de choses et en même temps, il y a quand même eu une négligence assez, assez claire de la part d'Apple. Mais
non, il faut leur faire confiance. C'est comme pour Sony.
Mais tu vois, moi, c'est marrant, j'ai la même approche. Je me dis, de toute façon... Bon, expliquons d'abord, et puis après, on donnera notre opinion. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que Apple utilisait à l'origine un système qui s'appelle... c'est Skyhook, je crois, qui vous localise approximativement en fonction des réseaux Wi-Fi à côté desquels vous êtes et des tours de téléphone cellulaire à côté desquels vous êtes.
Des fois, c'est très précis quand même.
Parfois, c'est très précis. Parfois, c'est plusieurs kilomètres. Et à l'origine, ils utilisaient le service de Skyhook. Aujourd'hui, ils utilisent leur propre service. Et quand vous êtes quelque part, ils vous envoient en fait une liste de toutes les tours de toutes les tours de téléphone et des réseaux Wi-Fi à côté de chez vous, enfin à côté de là où vous êtes, pour pouvoir ensuite vous resituer par GPS beaucoup plus rapidement. Parce que quand vous voulez vous situer uniquement par GPS, d'une part ça marche pas dans les immeubles si vous n'avez pas accès, si vous n'avez pas la vue sur le ciel, et d'autre part ça prend parfois plusieurs minutes. Donc pour accélérer ce processus, il vous envoie une donnée de localisation approximative autour de là où vous êtes. Donc, concrètement, ça dit plus ou moins où vous êtes, mais ce n'est pas votre donnée qui est traquée, c'est les tours qui sont autour de votre localisation.
Non,
donc,
de toute façon, ce n'est pas ta position qui est traquée, c'est celle de ton téléphone. Ce n'est pas la même chose.
Oui, c'est un petit peu, il joue sur le langage, mais pour bien comprendre ce qui se passe, disons qu'il y a une logique derrière ce fichier. Tu vois, c'est pas qu'ils ont tout à coup mis des données de localisation sans raison. Elles servent à ça, spécifiquement. Ensuite, il y a un autre problème, c'est que il y a trois problèmes. D'abord, il n'est pas chiffré, ce qui est quand même problématique. Ensuite, il est archivé sans limite. Donc le fichier a au moins un an depuis le début de OS 4, donc plusieurs mois au moins. Et Apple a dit c'est un bug, c'est une erreur, ils ont dit c'est un bug, et nous allons réduire à 7 jours ces données. Et troisième élément, nous allons le chiffrer, deuxièmement, nous allons le réduire à 7 jours au lieu d'une durée indéterminée, et troisième chose, nous allons désactiver l'archive sur votre ordinateur quand vous faites une archive de votre téléphone. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle il était aussi sur l'ordinateur, c'était que quand vous archivez votre téléphone, il archive tout ce qu'il y a dedans, et donc ça aussi. Là, ils vont désactiver l'archive de ce fichier sur votre ordinateur. Et
oui, ça sera archivé direct à la NSA, en fait.
Et alors, le truc, c'est que ils ont bien précisé, et on n'a pas de raison d'en douter, qu'ils n'envoient jamais ces données à qui que ce soit. Elles servent pour cette utilisation, possiblement pour pour les applications sur votre téléphone auxquelles vous autorisez d'utiliser vos données de localisation, normal, mais ils ne les envoient jamais au serveur d'Apple ou à qui que ce soit d'autre.
T'es sûr que c'est ça? Parce que moi j'avais compris qu'en fait ils l'envoyaient quand même de façon encryptée.
Non, alors ils envoient...
Ouais, pour agrémenter la base de données en fait, des hotspots et tout ça.
Tout à fait, mais ils envoient ça de manière non identifiable, c'est-à-dire ils disent le réseau Wi-Fi qui s'appelle plop plop youpla, il est à
tel endroit.
Tel endroit, voilà. Donc c'est pas votre donnée.
Et c'est
votre...
l'iPhone avec tel numéro de série qui vous l'a envoyé. C'est pas ton nom.
Bah non, mais non, c'est non identifiable. Non, donc normalement, c'est pas ça.
Ah oui, mais il faut faire confiance là aussi.
C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que à partir du moment où on utilise toutes ces technologies, il faut bien comprendre que ce type de problème peut arriver d'une part. Alors, il faut rester vigilant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout accepter, mais ce type de problème peut arriver. Et d'autre part, on abandonne forcément une part, un tout petit peu, de notre vie privée. Parce que quand on utilise un service de...
Sors de ce corps.
Qui donc ?
Mark Zuckerberg sort de ce
Non
corps.
mais c'est vrai, je veux dire, tu utilises
Non, mais c'est vrai, tu as raison.
Facebook, si ton compte se fait hacker, bah tu es forcément tu as un risque d'avoir énormément de données sur toi qui
Mais même
soient
sans te
propagées
faire
dans le...
hacker, tu en diffuses toi-même. Donc, bon,
Bien
voilà.
sûr. Ou non, mais ce que je veux dire, c'est
Utilise.
que c'est il y a des risques que ça aille au-delà de ce que toi tu as accepté. Même si toi, sans aucun rapport avec toi, si Facebook a un problème demain, comme Sony a eu un problème, parce que ils ont eu des problèmes de communication Sony. Très bien, mais il n'empêche que cette attaque est arrivée à Sony, elle aurait pu arriver à n'importe qui d'autre. Imagine
Bien
que
sûr.
Facebook même s'ils prennent toutes les précautions du monde, de toute façon, on le sait très bien, et on rigole des protections Hadopi et des gens qui disent on peut faire ci et ça quand ça vient du gouvernement. Alors, il faut appliquer la même logique à tout le monde. Il n'y a pas de système complètement impénétrable. Donc, si jamais ça arrive à Facebook
Et surtout
ou à
pas,
quelqu'un d'autre, ou à
Olga.
Google, vous risquez d'avoir toutes les données que vous avez chez eux et donc une partie de votre vie privée qui est exposée. Il y a toujours un risque. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est quand même un petit peu hypocrite de se dire, qu'on me comprenne pas mal. Cette histoire de données de localisation avec Apple, c'était hyper suspect et évidemment qu'il faut être vigilant et corriger les problèmes quand on les trouve. Mais il faut pas s'attendre non plus à ce qu'il n'y ait jamais de problème nulle part et que tout fonctionne parfaitement bien
Non,
100% du
le
temps.
seul truc, c'est que personne n'a lu les 14 conditions de page qu'on accepte bêtement quand on se connecte à iTunes et qu'on active son téléphone. Mais pareil, c'est écrit dedans. Hein.
Bah oui, c'est sûr.
Et tu l'as accepté. Donc voilà, non, mais évidemment, il faut être vigilant. Mais si par contre, c'était pas écrit dans les conditions, ça, c'est un peu vicieux, quoi.
Ah non, mais c'est
Dans le
sûr,
sens
c'est
où
sûr.
tu mérites quand même d'être averti que. Tu vois, déjà quand tu achètes un iPhone, t'es obligé d'avoir une carte bleue et un compte iTunes, quoi. Enfin, en gros, c'est ce qui est écrit sur la boîte, hein. Donc, voilà, quoi. Mais on te dit pas, par contre, que tu vas être traqué en permanence et tout ça par ton téléphone, même s'ils
Ah,
l'utilisent pas, tu vois, la donnée
je sais
pour
pas
eux.
si t'es Sophie est en train de downloader des trucs, des podcasts No Watch sur ton réseau, mais
Ah, non.
ta voix est de mauvaise qualité là, tout à coup.
Ah, c'est peut-être parce que je suis malade. Non, ça va? C'est mieux ou
Bon,
pas?
ça va, continue.
Ok. Non, mais de toute façon, j'avais fini avec ce que je voulais dire. Mais en gros, oui, on est obligé d'accepter, entre guillemets, le fait qu'on vive avec Big Brother. Mais
Ouais.
le truc, c'est que j'aimerais qu'on me le rappelle, en fait.
Ouais.
Et pas que moi, je sois obligé d'y penser à chaque fois, de me dire, tiens, je vais acheter le nouveau téléphone Android, machin. Et tu vois, je pense pas forcément au fait que ben, je vais être traqué par Google, quoi.
Ouais, c'est sûr. Non, mais je comprends, je comprends. C'est
Si c'était
effectivement...
écrit au moins sur la boîte, ça me le rappellerait. Et là, je pourrais me dire, ah, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas, tu vois. Mais je le ferai en mon âme et conscience.
Ouais, mais je crois
Voilà.
que... Bon, oui, je comprends, mais le truc, c'est que, en tout cas, si vous êtes auditeur de notre émission, vous le savez déjà parce qu'on le répète tout le temps. Donc, voilà, c'est un petit
C'est vrai.
peu... Bon, c'est un petit peu... pas très réglo de se dire ensuite, oh mon Dieu. Et encore une fois, je le répète, parce que je veux pas qu'on m'accuse d'être complètement la tête dans les nuages, mais... Ça veut pas dire qu'il faut pas être vigilant et qu'il faut pas corriger les problèmes quand ils arrivent. Mais bon. Bon. Je pense qu'on a fait le tour des
Tu m'entends
controverses.
toujours bien ou pas?
Oui, ça va plus ou moins. C'est juste que la qualité de Skype est
Ouais,
un
mais
peu
en fait,
moins
c'est parce
bonne.
que j'ai Julien qui est en train de télécharger sur mon cloud personnel, mon Pogo Plug,
Ah, d'accord.
un épisode de podcast. Et c'est vrai, en plus, il télécharge HD Lab. Donc
Là
je vais lui
là.
demander d'arrêter de suite.
Et il sort quand HD Lab alors?
Ah, cette semaine. Enfin, je sais pas quand est-ce que
Ah!
toi tu sors le rendez-vous tech,
Bah
mais.
normalement au plus tard demain.
Là, il regarde la version finale, en fait.
D'accord. Ok, bon très bien. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est HD Lab, surveillez nowatch.net et vous le découvrirez bien assez tôt. A priori, cette semaine.
Voilà.
Donc, eh ben écoutez, on a fini les controverses, vraiment les grosses controverses. Je pense qu'on peut faire une pause détente avec notre sponsor!
Yeah.
Vous voyez comme il est content, Cédric, qu'on parle de notre sponsor. Je suis
On
sûr
va
que c'est le
manger un
cas.
peu.
Je suis sûr que c'est le cas. Ah oui, lui, il va aller manger un morceau. Je suis sûr que c'est le cas pour vous aussi, puisque vous le savez, le moment où on parle du sponsor, c'est toujours la fête. Et en l'occurrence, c'est triplement la fête plus mobile, puisque je vais vous parler de l'offre Triple Play plus mobile de notre sponsor Numéricable. Alors en fait, depuis le 10 mars, Numéricable a lancé une nouvelle offre Triple Play plus appel illimité vers les mobiles. Et c'est l'offre de ce type qui est la moins chère du marché. Elle s'appelle ITNT. c'est super simple, hein. C'est l'offre avec les chaînes de la TNT et de la TNT HD, 30 mégas pour votre connexion internet et appel illimité donc vers les fixes en France et appel illimité vers les mobiles en France, aux USA et au Canada. Et tout ça, c'est pour 29,90€ par mois seulement. Donc c'est effectivement l'offre de ce type la moins chère du marché. Pour les gens qui n'ont que faire des multiples chaînes du câble, des 150 000 chaînes qu'on peut vous offrir ici ou là et de tous ces services qui ne vous intéressent pas vraiment, vous dites « moi je veux les trucs qui me servent et c'est tout », cette offre est faite pour vous. Si par contre vous êtes un chaînivore, c'est un terme officiel, et que vous avez une offre du type NC Box Power ou NC Box Premium, vous pouvez aussi avoir accès aux appels illimités vers les mobiles France, USA, Canada, machin, tout ça, pour 3€ de plus, ce qui fait passer vos offres respectivement à 42,90€ ou 52,90€ par mois. Et si vous avez déjà souscrit à une offre numéricable avant le 1er février 2011, vous pouvez appeler leur service client au 39,90€ pour passer à la nouvelle offre. C'est super simple. Et si vous voulez plus de renseignements et de détails sur toutes ces offres, vous pouvez aller sur le site nowatch.net et vous cliquez sur la bannière numéricable. Comme ça, vous avez toutes ces informations. Et en plus, puisque vous êtes passé par notre site, ils savent que nous vous avons envoyé. Et ça nous aide énormément, évidemment. On les remercie grandement et on vous remercie aussi de nous soutenir de cette manière. Fin du message du sponsor et on enchaîne sur d'autres histoires extrêmement intéressantes et notamment, on parlait de musique tout à l'heure et on parle énormément de Spotify quand on parle de musique et Spotify en fait a eu une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle un petit peu en même temps. À partir du 1er mai, alors bonne nouvelle, c'est qu'ils seraient prêts, quasiment prêts à sortir leur service aux États-Unis parce qu'il est encore disponible qu'en Europe. Donc ouais. Ça, c'est une super nouvelle pour eux. Mauvaise nouvelle pour ceux qui ne sont pas... Enfin, toi, tu me disais, Cédric, que tu as un abonnement Zune ou Spotify, je ne sais plus.
J'avais Spotify et dès que j'ai eu mon Windows Phone, je suis passé à Zune. En fait, c'était beaucoup plus pratique pour moi. Zune, voilà. Zune.
Non, mais je l'ai dit aussi, donc... comme...
Voilà.
D'accord, ok. Donc, toi, t'es chez Zune maintenant. Mais en fait, Spotify a limité le nombre de... Enfin, la quantité d'écoutes qu'on pouvait faire sur leur service gratuit. C'est-à-dire que ils ont limité à 10 heures au lieu, je crois que c'était 20 heures avant, je suis plus tout à fait sûr parce que moi, comme je le répète 1000 fois par épisode, j'ai un compte premium, mais ils ont limité à 10 heures de musique par mois. Ah ouais, 10€ par mois pour écouter toute la musique que tu veux, effectivement, c'est
ça te fait riche.
C'est clair. Donc ils ont limité à 10 heures par mois. Je crois que c'était 20 avant, mais je suis pas sûr. Et en plus, il y aura 5 écoutes d'un morceau maximum. Donc, si vous écoutez plus de 5 fois le même morceau, bah, vous pourrez plus l'écouter. Je crois que c'est un truc... c'est à peu près ça. En gros, ils ont réduit un petit peu la limite qui existait déjà pour les gens qui ne payent pas. Alors... Il y a plein de gens qui ont réagi de manière un petit peu énervée en disant « Ouais, ok, super, voilà, avant c'était bien, maintenant c'est pourri, moi je me casse, adieu Spotify. » Et peut-être qu'effectivement ils vont le faire, parce qu'il faut se souvenir que l'alternative du piratage gratuit et simple existe toujours. Mais je trouve qu'encore une fois, enfin c'est souvent le cas ce genre de réaction, je trouve que le service gratuit d'une part et payant d'autre part, les deux composantes restent extrêmement intéressantes. Donc, on peut pas trop se plaindre non plus là. J'ai l'impression d'être le gars qui tempère sur tous les sujets aujourd'hui. Je m'énerve à aucun moment. mais bon, quand même, c'est ça reste un service excellent, Spotify.
Ah oui, pour moi c'est un super service quoi. Enfin, y a rien à dire de ce côté-là. En plus, le gros avantage de Spotify, c'est qu'il est disponible sur plusieurs plateformes, tu vois. Ouais. iOS, Android, enfin voilà quoi, il est quasiment partout. Et WebOS d'ailleurs, et je crois qu'il est aussi sur BlackBerry. Bref, il manque pas grand chose. Pour moi, c'est presque la licence globale finalement, tu vois. Tu payes abonnement et tu consommes autant que tu veux, et je trouve que c'est la bonne idée, en fait, voilà. Et même moi, pour 10€ de plus, je veux bien prendre aussi la vidéo en illimité.
Ah oui, moi, je suis pas contre, c'est clair.
Pour un Netflix, donc je veux bien.
C'est clair. Ils ont 1 million d'abonnés payants et ils ont quand même perdu en 2009 26 millions de dollars. Il semblerait qu'ils soient sur la voie de la rentabilité aujourd'hui. Et un truc qui pourra peut-être les aider, c'est qu'on a entendu des rumeurs selon lesquelles le service de musique de Google, donc le fameux Google Music, serait en train de dérailler un peu dans les négociations avec les majors. Parce que, alors on a entendu différentes choses, d'abord les majors étaient trop durs, ensuite Google change ce qu'ils veulent du jour au lendemain, ils changent tout le temps, donc les majors peuvent pas comprendre ce qu'ils veulent et en plus ils peuvent pas suivre. En tout cas, les négociations sont au pire qu'elles aient été depuis le début.
Mais il semblerait c'est un peu le choc des cultures, hein. Google d'un côté, les majors de l'autre. Wow.
Ça, c'est clair. Et pendant ce temps, alors on a parlé d'Amazon et de la musique il y a deux semaines, mais pendant ce temps, il semblerait qu'Apple, par contre, ait réussi une part de ces négociations et qu'ils aient terminé les travaux sur leur centre de données et qu'ils en aient commencé d'autres. Donc,
À suivre.
On en entendra parler bientôt certainement. Mais donc bref, Google, pour en fait passer à côté des majors, il semblerait qu'ils soient en négociation avec Spotify. Alors pourquoi pas, Spotify fournirait le service de musique de Google Music. Et comme eux, ils ont déjà les négociations avec tous les majors de la musique, peut-être que ça pourrait simplifier les choses et fonctionner plus vite. Ce serait pas mal.
À voir. Ouais, why not, hein, mais...
Et du coup, t'aurais Zune, je sais pas pourquoi je dis Zune, vous m'avez perverti.
Et ouais.
Et du coup, t'aurais Zune, toi, mais t'as un Android. Ah non, t'es toujours sur ton Windows Phone.
Là, mais en fait, j'oscille entre WebOS et Windows Phone en ce moment.
Ah, d'accord. Donc du coup, Google Music, ça t'intéresserait plus du tout.
Faut voir. Si c'est sans DRM et multiplateforme, why not?
Pourquoi pas. Sans DRM...
j'exagère, mais au moins multiplateforme.
Autre chose qui t'intéressera certainement, parce que je sais que tu es un grand fan de RIM et du BlackBerry, n'est-ce pas ?
Oh, très.
C'est le Playbook, le BlackBerry Playbook, dont la tablette de RIM, qui est enfin disponible aux États-Unis et au Canada, et dont on a entendu les premiers tests qui sont... Alors... Bon, d'une part, on a entendu que le Zoom, le Motorola Zoom, donc la tablette fameuse hyper prometteuse, etc., s'était vendu entre 15 000 et 150 000 unités, ce qui est pas vraiment super du tout, pour le moins.
Qui est décevant, on va dire, voilà.
Voilà. Enfin, non, mais carrément décevant. Enfin, ça met Motorola Mobility dans la merde, comme c'est pas possible, quoi. Et le Playbook, en fait... serait un essai un petit peu... Alors, d'une part, il faut savoir qu'il faut absolument avoir un BlackBerry avec pour qu'il fonctionne vraiment. Et d'autre part, il semble qu'il soit un petit peu décevant, quoi, là aussi. C'est une machine qui est bien pour certains petits trucs, mais pas pour tout. Je sais pas si t'as suivi... Enfin, toi, je sais que t'es un grand fan de téléphone et de tablette. Tu suis toute cette actualité. T'as suivi le Playbook ?
Oui, j'ai suivi parce qu'en fait l'interface me fait beaucoup penser à WebOS justement, qui pour moi est en tout cas pour le multitâche l'interface ultime.
Ouais.
Ce système de cartes là, en fait, je trouve ça vraiment super. Et ouais, j'ai suivi ça, ça avait l'air très performant, tout ça, machin, voilà, rien à dire. Mais j'ai pas pu jouer avec.
Ouais.
À mon grand regret. Donc du coup, je peux pas te faire, enfin, je peux te donner un avis par rapport au test que j'ai lu, mais ouais. C'est pas mon avis perso, donc je sais pas si ça va intéresser les gens, quoi.
Non, bah écoute, on peut en parler quand même puisque ça a été. Maintenant, il est disponible. Bon, on n'y peut rien, il est pas disponible en France, hein, mais
non.
C'est vrai que ce dont j'ai eu l'impression, c'est que les tests effectifs était décevant par rapport justement à cette image que les gens avaient du Playbook avant de l'avoir entre les mains. Et c'est ça qui est le plus
comme pour Motorola.
Décevant, quoi. Ouais.
Comme pour Motorola, mais voilà, sur vidéo, quand on avait vu la vidéo du Playbook, même toi, hein, t'avais dit c'est pas mal et tout ça, machin, voilà. Après, le problème, c'est que je pense que inconsciemment, on a été habitué par Apple à l'iPad. Et quand on tombe sur un autre système, on a peut-être du mal. Souvent, on n'essaie pas de creuser, de s'adapter au système, en fait. Je pense qu'il y a aussi de ça, parce que les gens le comparent toujours à l'iPad, forcément, puisque c'est aujourd'hui la référence. C'est le premier, entre guillemets, à être sorti des tablettes, il y en a eu avant, mais c'est le premier avec un OS différent, on va dire, que de Windows, par exemple. Je pense qu'en fait, il y a cet effort à faire. Tu vois, moi, je jongle facilement entre plusieurs mobiles parce que je fais l'effort de me dire, bah tiens, je vais m'adapter à l'OS, voyons voir comment est-ce que c'est pensé. C'est complètement différent de l'iPhone, c'est complètement différent du Windows Phone quand je suis sur WebOS. Mais j'essaie de voir en chaque système ce qui me correspond et de m'adapter à l'OS. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens font plus cet effort d'adaptation et on compare toujours à l'iPad, qui pour moi est pas une référence en termes d'expérience utilisateur purement... En termes d'expérience de consommation de contenu, téléchargement, machin, c'est super simple, mais je trouve que l'interface en elle-même, la page d'accueil et tout ça, c'est quand même pas terrible, quoi.
Ouais.
Mais c'est aujourd'hui une référence. Moi, tu vois, sur mon iPad, j'ai...
Je suis sûr qu'il y a des dizaines de fans d'Android et de Windows Phone qui sont en train d'entendre ça et qui disent « Ouais, exactement, t'as raison, Cédric,
mais
c'est
oui,
exactement
mais,
ça !»
Mais je pense que c'est vraiment ça. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus spécialement cet effort-là. On se dit, bah, tiens, moi ça me fait rire quand je vois l'histoire du procès Samsung-Apple, quoi, sur la copie de l'interface et tout ça.
Franchement, faut avouer que ça ressemble quand même pas mal, quoi.
Mais oui, mais je pense que c'est hérité de ça aussi. C'est, ouais. C'est hérité du fait que les utilisateurs ont vu ce que c'était l'iPhone, ont trouvé ça bien, c'est peut-être simple, je sais pas. Ont pas creusé plus loin et se sont dit, bah, tiens, en fait, je pense que la force d'Apple, ça a été presque d'adapter au départ son OS à l'utilisateur. Aujourd'hui, c'est fini, hein. Il l'adapte plus à l'utilisateur. C'est à nous de rentrer dans le moule d'Apple. Mais je pense que ça a été ça, c'est de proposer quelque chose de nouveau et simple. Les gens se sont dit, bah, c'est super simple, je vais prendre celui-ci, c'est génial. Et de ne pas retrouver cette simplicité ailleurs et de ne pas faire l'effort intellectuel de se dire, bah, tiens, si j'apprenais à me servir des widgets sur Android et des machins, des trucs, ça me simplifierait vachement plus la vie que de rentrer dans 10 000 applications. Mais on ne fait plus cet effort-là. On se dit, oh, c'est trop bordélique, je comprends rien. Voilà, je pense qu'il y a... Je vais me faire des ennemis peut-être, mais je pense que Apple, pour le coup, a un peu tiré vers le bas cet aspect-là de l'OS, cet aspect un peu...
Mais alors, pour le playbook, justement, tu voudrais dire qu'il a plus de capacités, plus de possibilités, mais que les gens ne les voient pas parce qu'ils ne cherchent
pas
plus loin.
Parce qu'ils ne font pas l'effort. Ouais,
ouais. Moi, écoute, je pense que c'est une théorie qui se
vaut. Il y a un problème de contenu aussi, hein, je pense aussi, mais ouais. C'est comme à chaque fois... Enfin, je veux dire,
parce que
ce qu'il faut préciser, je vais finir juste ma démarche intellectuelle. Quand Apple sort un produit, ils le sortent avec tout derrière, le contenu, les applications, le store, tout ce qu'on veut. Quand l'iPad est sorti, c'est appuyé sur la base de l'iPhone. Du coup, quand il est sorti, au moment de l'achat, t'avais déjà accès à tout le contenu quasiment. Quand le playbook sort, y a tout à construire derrière. Donc t'achètes un playbook, mais tu peux entre guillemets rien faire avec.
Oui,
enfin,
non,
il manque des choses.
Mais non, il peut utiliser les applications Android, par exemple.
Oui, je suis d'accord. Mais avoue que c'est pas simple.
Non, c'est pas simple. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais il y a quand même une chose qu'il faut préciser sur ta logique qui pourrait paraître logique, c'est que même les gens qui sont des technophiles qui recherchent justement des alternatives à ces tablettes Apple, qu'elles soient chez RIM ou chez Motorola ou ailleurs, même ces gens-là, finalement, ne sont pas convaincus par ces tablettes-là, alors qu'ils seraient prêts à faire cet effort et qu'ils cherchent justement ce petit ajout en productivité.
C'est ce que j'ai fait pendant des années. Depuis que l'iPhone est sorti, j'ai cherché ailleurs, tout ce que tu veux, et il y a toujours quelque chose qui te ramène à iOS quand tu l'as essayé. Enfin, moi maintenant j'ai fait mon deuil sur le mobile hein, depuis longtemps, mais depuis plus d'un an. Mais j'ai eu un iPhone 4 quand même hein, que j'ai revendu, mais j'en ai eu un. À chaque fois j'y suis retourné parce que il y avait cet aspect. Ouais, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le nouvel OS, quoi, tu vois, je veux l'exploiter à fond, qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau? Et au final, tu te rends compte que les choses n'ont pas autant évolué
que
la version précédente. Mais je pense qu'il y a vraiment cet effort-là qui n'est plus fait, vraiment. Et je pense que même parmi les gens qui cherchent des solutions alternatives, tu sais, moi, WebOS, il m'a fallu deux fois, il a fallu que je fasse deux tests avant de vraiment apprécier l'OS. Au début, le système de cartes, tout ça, machin, c'était bien, mais j'avais pas creusé plus loin. Et là, maintenant que je m'y suis vraiment remis, je trouve que c'est un OS qui est fantastique, quoi.
Bah écoute, je vais, pour conclure ce petit sujet sur BlackBerry qui est devenu un débat sur Apple,
oui.
Je dirais une chose.
Comme à chaque fois.
On dit pas rien, hein, c'est comme ça que se passe l'actualité. C'est que les meilleures choses, il faut souvent du temps pour apprendre à les apprécier. C'est
exactement
le cas pour tout. pour absolument.
C'est le cas pour tout, exactement.
Donc,
c'est le cas pour
les
tout.
Bons je pense vins, que les bonnes séries, la bonne ouais, musique,
vois,
tout.
Moi, je trouve que faire un test d'un produit quand tu l'as testé même une semaine, c'est pas suffisant.
Voilà. Ah oui, mais il faut bien.
Je sais bien parce qu'il faut être le premier sur le référencement.
Non, mais c'est même pas ça. C'est que
tout ce que tu veux. Non, si, si, tu peux... non, web, mais... ça.
Non, non, bien sûr, mais enfin, c'est quand même possible de dire ce que tu penses d'un produit. Au bout de 10 minutes, c'est difficile, mais au bout d'une semaine, tu as le droit de dire ce que tu penses d'un produit. Il faut quand même pas exagérer. Mais, tu peux pas imposer aux gens d'attendre un an de test d'un produit.
Non, je dis pas ça. Mais une semaine d'usage, pour moi, c'est presque pas assez. Tu vois, ne serait-ce que pour l'autonomie, ne serait-ce que...
Ouais, voilà, je comprends ce que tu veux dire.
T'as pas eu le temps d'attendre tout. Et du coup, tu donnes un avis au bout d'une semaine qui est, entre guillemets, tu vas pas réécrire un article un mois après. Donc, t'as donné ton avis au bout d'une semaine. Si t'as flingué le produit, ben, quand les gens vont le lire, ils vont se dire, ah ben finalement, c'est pas terrible. Alors que peut-être que la personne qui l'a testé, si elle avait gardé un mois, eh ben, au bout d'un mois, elle serait dit, mais finalement, ce produit a changé ma vie au bout d'un mois, tu vois.
Ouais.
C'est ça
je crois
truc.
Que t'es un petit peu optimiste
non,
sur
tester,
la chose.
Non, 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 mais pour tester beaucoup de produits, pour avoir testé beaucoup de produits, souvent en une semaine, tu peux pas te faire un avis exact sur l'appareil. Et c'est souvent sur le très long terme que tu apprécies le produit à sa juste valeur. Quoi. Enfin, quand je dis très long terme, c'est au moins que tu l'essayes dans toutes les configurations et usages possibles, tu vois, dans les transports.
Mais oui, mais le problème, c'est que tu fais tu as une logique qui est logique pour certains aspects et certains cas et certaines situations. Mais le problème, tu dis, dans un monde idéal, ça devrait fonctionner comme ça. Mais le problème, c'est que on vit dans le monde réel et pas un monde idéal. Donc, il faut aussi s'adapter.
C'est fou que c'est toi qui me dis ça, parce que d'habitude, ça aurait été plutôt l'inverse.
C'est bien possible. Bon, écoute, je propose que nous
ferme cette page.
Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant quand même parce que c'est. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec toi.
Mais je pense que c'est une bonne tablette quand même, le Playbook. Voilà.
Ouais. Enfin,
je veux l'essayer quand même pour vraiment donner un avis définitif. Mais c'est bien qu'il y ait de la concurrence. Voilà. C'est sain pour le marché. C'est sain pour les OS.
Bah, ce qui est clair, c'est que c'est une tablette particulière parce que c'est une tablette qui vient en complément de votre BlackBerry. Donc, déjà, les fonctions sont hyper spécifiques. Donc, et peut-être qu'ils réussiront à gagner le marché des entreprises. Hein,
je leur souhaite.
On va passer aux news et rumeurs qui sont donc les news dont on traite beaucoup plus rapidement parce qu'elles sont sans doute moins intéressantes à débattre. Et on va commencer avec deux petites nouvelles sur Facebook. Première nouvelle, le Facebook Deals qui va arriver aux États-Unis, enfin qui est arrivé aux États-Unis cette semaine, qui est en fait le concurrent de Groupon et comment il s'appelle, Living Social, voilà.
Ouais.
Ces trucs de coupons hyper locaux où on vous dit, on vous envoie un email pour vous dire demain vous pouvez avoir
chez
pour
le coiffeur
50%,
machin, voilà.
Chez le coiffeur Cédric Bonnet,
le shampoing est offert, le shampoing est offert, machin, voilà.
Et donc Facebook a lancé ce concurrent et on vous avait dit plusieurs fois dans l'émission que ce segment de marketing était en explosion totale. Il n'est pas surprenant, Facebook se jette là-dedans aussi. Je serais curieux de voir ce que ça donne en France, d'autant plus, enfin, de l'essayer en tout cas, d'autant plus qu'avec la mécanique des amis et du réseau social, ça peut être intéressant.
Ça peut faire très mal, je pense.
C'est vrai. Twitter aurait... Il y a d'autres trucs sur Facebook avec le send button, les groupes features, etc. Bon, c'est pas hyper intéressant.
Ouais.
Si ça vous intéresse, recherchez le send button et les groupes, les features des groupes, enfin les fonctionnalités des groupes. Twitter aurait refusé... T'as lu la news ?
Ouais, j'ai vu,
ouais. Ouais, merde. Bon, Twitter aurait refusé une offre de Google de... Alors attention, non pas... 500 millions de dollars, non pas 1 milliard, non pas 2 milliards. Bon, je vais vous la faire courte. Une offre de 10 milliards de dollars de Google.
C'est pas assez cher, mon fils.
Non, mais alors ça, franchement, je suis presque tombé de ma chaise en entendant ça. T'imagines 10 milliards de dollars
moi,
de Google.
Moi, je peux te dire que pour 1 milliard, je suis prêt à vendre nos watch.
Ah oui, évidemment, mais ça, il n'y a pas de problème. Pas de problème. On est, enfin, tu vois, on est certainement pas vendre tout de suite. Mais non, 1 milliard, pas de problème. Moi, je dirais même, on peut descendre un peu.
Ouais. Oui, 500 millions, je prends aussi.
Voilà, on prend. Ouais. Donc, avis aux investisseurs. L'open source. Alors, on a une petite news open source. Hein. On va en parler quand même.
La news open source.
La communauté open source devrait être plutôt contente parce que Oracle aurait cédé la marque OpenOffice à la communauté open source. C'est une bonne nouvelle parce que, logique oui et non. Au début, en fait, Oracle a racheté OpenOffice
oui.
Et on a changé un petit peu les règles de fonctionnement. Qui est, donc OpenOffice, pour ceux qui ne savent pas, c'est une alternative en open source, libre à Office de Microsoft, donc la suite bureautique. Et quand Oracle les a rachetés, les fondateurs, enfin les principaux développeurs de OpenOffice n'ont pas forcément apprécié la manière dont Oracle faisait les choses et ils se sont séparés de OpenOffice. Ils ont pris une version, puisque c'est open source, ils avaient le droit, ils ont pris une version et ils l'ont renommée. Ils ont fait un fork, ce qu'ils appellent un fork, donc une fourche dans le développement, et avec une nouvelle version qui s'appelait LibreOffice. Donc ils ont continué le développement en totalement libre, dans le même esprit que OpenOffice avant qu'Oracle ne les rachète.
Or, ça, c'est moche.
Bah, disons que Oracle avait été un petit peu particulier dans leur gestion du truc. Normal, ils vont faire LibreOffice pour rester dans l'esprit complètement ouvert. Et ben, Oracle, finalement, a pas forcément atteint ce qu'ils voulaient avec OpenOffice. Donc, ils ont décidé de réouvrir complètement OpenOffice, de donner le nom même OpenOffice à la communauté open source. Et donc, il est possible que LibreOffice et OpenOffice redeviennent un seul projet et se renomme complètement OpenOffice. Ça serait pas mal parce que c'est une super bonne suite bureautique. On parle souvent de Google Docs, etc., de tous ces trucs. OpenOffice, si vous n'avez pas de quoi vous payer Microsoft Office, je vous le recommande vraiment, vraiment. C'est une super bonne suite, des fonctions basiques, mais hyper efficace, hyper bien fait, ça fonctionne super bien. Donc OpenOffice ou LibreOffice pour le moment, jusqu'à ce que...
Ouais, la marque OpenOffice est quand même plus connue que LibreOffice, donc je pense que c'est une bonne chose. Et juste comme ça, tu parlais de Google Docs. Hyper rapidement, il y a l'application pour Android qui est sortie, l'application Google Docs en fait.
Oui, qui a l'air super bien
faite. En native, qui a l'air super bien faite, mais ça on se le réserve pour Upload.
Oui, oui, ok. Juste petit truc, vous pouvez scanner et reconnaître des documents que vous voulez avec votre appareil photo, super bien fait. Si vous avez un Android, moi je rêve d'une application Google Docs sur iPhone.
C'est un Evernote-like, en fait, maintenant. Ouais.
Autre nouvelle dans le monde des jeux vidéo, Nintendo va annoncer sa Wii 2, enfin sa nouvelle console Wii, va sortir sa nouvelle console Wii en 2012 et va l'annoncer à l'E3 en juin. L'E3, c'est le grand salon des jeux vidéo à Los Angeles.
Super avantage stratégique de la sortir maintenant parce que les autres avaient dit qu'elle durerait 10 ans, leur console, et ils en sont à 5 ans d'exploitation et 6 ans ou 7 ans pour la Xbox. Donc ça va. Ouais. Du coup, c'est plutôt une bonne chose pour eux. Et juste vu qu'on est dans les jeux vidéo, PlayStation va sortir un nouveau modèle de PS3 aussi, qui a atterri à la FCC. Le numéro de série a changé. On parle de Bluetooth et de Wi-Fi comme sur l'ancienne, mais voilà, il y a un nouveau numéro. C'est la PS3 3000, 3001 même. Donc du coup, à mon avis, pour le 3, on va avoir une nouvelle PS3 genre ultra slim ou je sais pas quoi. Enfin voilà.
Ah, intéressant ça.
Ouais.
Et là donc la Nintendo Wii 2 aurait, enfin d'après ce qu'on a vu, d'une part elle ferait une taille à peu près d'une Xbox et ça serait une console un petit peu plus traditionnelle avec des vraies manettes. Il y a même un écran sur la manette qui peut afficher un truc qui est calculé par la console elle-même, donc ça peut faire des images de bonne qualité, mais sur la manette, enfin c'est pas trop comment ça va marcher, mais
non, mais tu vois, pour un jeu de voiture, t'as le rétroviseur par exemple.
Ouais, par exemple.
Ça peut être sympa.
Ça me paraît un peu gadget quand même, je t'avoue, mais...
Faut voir. Ouais, faut voir. Utilité. Si l'écran est tactile, en plus, dans un FPS, tu peux changer tes armes directement en appuyant dessus, ou tu vois. Ça peut être sympa.
Ouais, enfin...
Ou donner des ordres à des
ouais,
gens,
ouais,
machin.
Plutôt ça, parce que changer d'arme, t'appuies sur un bouton, c'est plus simple.
Oui, mais quand je parle changer d'arme, c'est quand t'as 30 armes, si tu dois appuyer 50 fois sur le bouton pour aller jusqu'au truc,
ouais,
et là, t'appuies direct sur l'icône.
Cédric, moi, pour te flinguer la gueule, j'ai besoin que d'une arme.
Ouais, c'est ça, t'as besoin que de tes poings.
Ça faisait un peu Duke Nukem, ça. Ouais. Alors on va faire une deuxième pause avant de terminer avec nos news et rumeurs. La deuxième pause, c'est pour vous parler de notre deuxième sponsor, la boutique No Watch, qui vous permet de soutenir vos podcasts préférés et certaines parties de votre corps d'un seul
aussi,
et même
de supporter certaines parties de votre corps.
Alors la boutique No Watch, elle est accessible depuis le site nowatch.net et elle présente plus de 140 articles, des t-shirts, des goodies qui sont aux couleurs de vos émissions préférées de chez No Watch TV, de No Watch FM et de The Lab. Alors il y a énormément de prix différents, il y a des petits t-shirts super basiques qui font une petite contribution, il y a des t-shirts collector. de, bien sûr, de très bonne qualité, testé et approuvé par les animateurs de No Watch. Et il y a des objets un petit peu plus chers, voire beaucoup plus chers, des trucs qui s'appellent collector, mécène, etc. Si vous voulez vraiment faire un don un petit peu plus élevé à No Watch, et ben vous pouvez aller plutôt dans cette direction et vous aurez un truc un peu plus rare, enfin parce qu'il coûte plus cher, quoi. Et en même temps, vous donnerez un petit peu plus d'argent à No Watch. Alors c'est une super bonne qualité et c'est des trucs, il y a certains designs qui valent vraiment le coup d'être vus. Donc allez y faire un tour, hein, jeter un coup d'œil ne coûte rien. Et puis si vous voulez vous laisser convaincre, non seulement vous pourrez envoyer un petit peu de sous à No Watch, mais en plus vous vous faites plaisir du même coup. Donc c'est un moyen qu'on a trouvé un petit peu pour faire du gagnant-gagnant, comme
exactement. Et puis c'est l'été, hein, donc les t-shirts, tout ça, machin, faut les renouveler un peu.
Exactement, ouais, ouais. Moi c'est un truc. Enfin, portez pas vos t-shirts de l'année dernière, sauf si c'est des t-shirts No Watch. Non, en fait, même si c'est des t-shirts No Watch, vous pouvez aller les changer. Voilà, vous pouvez prendre des nouveaux. Mmh. Bon, voilà.
Les logos ont changé depuis l'année dernière.
Faudrait qu'on les change, les logos. Genre le logo du rendez-vous tech que m'avait fait Jérôme à la bonne vieille époque, je l'ai pas changé. Enfin, il faudrait faire un autre truc à base de genre un machin avec des taches de peinture partout, genre un petit peu trash, tu vois.
J'sais pas. Moi, je suis pas sûr que ça colle avec l'image, ouais, du truc. Bref, on s'égare. Les news.
Les news, rumeurs. On continue. Il y aurait une rumeur, enfin, il y a une rumeur selon laquelle Google offrirait un système intéressant pour son ordinateur portable Chrome OS, sous Chrome OS. Ça serait un service d'abonnement à l'ordinateur portable.
Du leasing, quoi.
Oui, voilà, en gros, c'est ça. Donc, vous payez une certaine somme par mois et ça inclut le portable, enfin, l'ordinateur et peut-être même l'abonnement à Internet, possible. Et non seulement vous avez l'ordinateur, mais en plus quand il y a un nouveau modèle, il est renouvelé automatiquement. Donc bon, c'est du leasing, quoi.
Okay. Ouais, ouais. Ce qui serait sympa, c'est que l'abonnement en fait 3G soit inclus dedans, un peu comme dans les Kindle.
Ouais, ça serait pas mal. T'as dit Kindle, tout à coup avec Pâques, j'ai pensé à Kinder pendant l'espace d'une demi-heure.
Ah non.
Ça me donne faim. Sony, qui fait énormément de choses et pas seulement le réseau PlayStation, a annoncé deux tablettes qu'ils vont sortir sous Android 3.0. Une est une tablette relativement classique et l'autre, c'est une tablette avec deux écrans qui se déplient pour former... Enfin, qui se plient...
Ouais, deux écrans, 5 pouces, en fait.
Ouais, ça me paraît un peu gadget, quand même, ça.
Je trouve ça pas trop mal, le form factor. Ouais. Le fait de replier, ça évite d'abîmer l'écran. Tu le glisses dans ton truc, tu peux redresser,
ouais,
l'écran.
Tu
sers du clavier en bas, ça te fait limite un laptop, tu vois.
Oui, mais tant qu'il y a une petite séparation entre les deux, c'est jamais vraiment un grand écran, donc... Tu vois le cadre. Et...
Oui, oui, en fait, t'afficheras ta vidéo de toute façon en haut dans un petit. Ouais. Voilà.
Ouais. Information intéressante, la station spatiale chinoise, la première, enfin, serait opérationnelle en 2020. En tout cas, c'est leur projet.
T'as lu ça sur Baidu ou... Non, mais ça me fait penser à. Oui, non, remarque, oui, il y a de fortes chances pour que ce soit opérationnel. C'est ça qui est génial. Mais en Corée du Nord, je pense qu'ils ont déjà annoncé qu'ils avaient une station spatiale depuis des années. Non, mais... C'est rigolo, la désinformation du communisme. Non, non, mais là, je pense que c'est vrai.
Oui, non, c'est ça, oui. Autant les Corées. Kim Jong-il, je ne suis pas certain qu'il. Ouais. Oui. Si tu écoutes Kim Jong-il, il a déjà fait des tours dans l'espace.
Il a réalisé des films, il a écrit, je ne sais pas combien d'opéras et tout ça, c'est vrai. Hein.
Mais c'est pas vrai,
c'est ce qu'ils racontaient.
C'est ça. Mais les Chinois, oui, moi, je veux bien les croire qu'ils auront leur station spatiale en 2020. Ouais. Donc, attention, déjà qu'on on était espionnés par Apple, Google et tout le monde, en plus.
Maintenant, si on est espionnés par les Chinois du FBI, ça va plus.
Les Chinois du FBI avec des jumelles dans la station spatiale.
Ah, c'est foutu.
On n'est pas dans la merde. Le New York Times aurait vendu déjà 100 000 abonnements à son site web. C'est pas mal, quand même.
C'est pas mal, ouais.
Ouais, franchement, moi, j'aurais pas pensé qu'ils en fassent 100 000. Et 100 000, ça peut leur permettre, je sais pas si c'est tout
c'est
de suite rentable.
Non,
mais...
c'est le journal numérique, tu veux dire.
Oui, enfin, c'est l'ensemble. C'est
d'accord,
le,
oui. C'est et les articles premium et voilà. Le journal numérique.
C'est ça.
Ok.
Et franchement, vu les prix, j'aurais pas pensé qu'ils en fassent autant. Et vu les prix, ça peut leur permettre de. C'est peut-être une solution, quoi, pour.
Bah,
c'est viable, quoi. Bon, bah, bravo à eux. Nouvelle un peu triste.
Oh,
le
oui.
SETI. Oh, je vais te laisser la donner.
Le SETI a décidé d'arrêter la recherche des aliens. C'est moche, ça.
Non, mais c'est bon.
Mais à mon avis, c'est parce qu'en fait, ils ont trouvé un truc, et pour pas qu'on se fasse localiser, ils ont décidé d'arrêter les antennes, de couper, de nous mettre plonger dans le noir complet, tu vois.
Pour ceux qui savent
qu'on
pas,
se fasse attaquer.
pour ceux qui savent pas, le SETI, c'était cet organisme scientifique. Ils sont où? Ils sont c'est au Nouveau-Mexique.
Oui.
Bah, ils
tout
ont
est
une
au Nouveau-Mexique, hein. C'est là où s'écrasent les extraterrestres et tout ça, tu sais.
Ils ont enfin, je sais plus, peut-être qu'ils ont des télescopes un peu partout, je veux pas dire de bêtises, donc je suis pas certain, mais ils ont effectivement une série de télescopes qui écoutent dans
Oui, en fait, c'est même, ouais, c'est même pas des
systématiquement
télescopes, en fait,
les
des
antennes.
espèces de paraboles qui
Ouais.
écoutent les signaux qui viennent de l'espace, en fait.
Voilà. Et ils écoutent donc, ils pointent leurs antennes dans différentes directions, ils écoutent pour voir s'il y a des signaux logique, donc pas juste du bruit, des signaux logiques qui arrivent de quelque part. Ils font ça depuis des années et des années. Évidemment, écouter l'ensemble de l'espace, ça prendrait des milliards d'années. Donc, ils le font en sélectionnant les cibles. Et là, malheureusement, ils n'ont plus assez d'argent. Et c'est ironique parce que maintenant qu'on découvre de plus en plus de planètes, ils
Eh oui.
pourraient diriger leurs antennes pour écouter depuis ces planètes-là spécifiquement. Et maintenant, ils n'ont plus assez d'argent. Donc,
Et derrière, il y avait un programme qui était sympa, SETI at Home, qui permettait justement de mettre à disposition ta puissance de calcul de ton ordinateur pour décoder ce qu'ils enregistraient comme son.
ouais.
Tu te rappelles de ça?
Bien sûr, oui.
Voilà.
Oui. Ça, c'était l'un des premiers cloud computing partagés à la
C'est
maison.
ça,
Ouais.
ouais, du calcul partagé, quoi.
Ouais, exactement. Dernière info assez insolite. Je sais pas si tu as vu ça, mais il semblerait que il y ait un service qui te permette de louer un petit peu n'importe quoi, enfin des maisons, des châteaux, des trucs comme ça. Et ce service s'appelle Airbnb et il est possible sur ce service de louer le Liechtenstein.
Voilà, tout va bien.
Donc sympa, si vous avez, c'est combien? 70 000 dollars à dépenser comme ça, vous avez un petit peu trop d'argent sur votre compte en banque. Pour 70 000 dollars par nuit, vous pouvez louer le pays, le Liechtenstein,
Mais
qui est le plus petit pays du monde, hein, pour ceux qui ne savent pas.
pour ce prix-là, ils virent tous les habitants ou...
Je sais pas, je me demande si tout le monde n'est pas à ton service du coup, tu vois. Enfin non, mais en même temps,
Non, mais
je sais
pour
pas.
tourner un film, ça peut être sympa.
Ça peut être très très, oui, peut, oui, exactement. Et tu envoies les scripts aux gens qui doivent faire ce qu'on
Non,
dit de
tu
faire
leur
dans
dis, vous partez pendant la journée,
les.
hop. Et
Non
puis,
mais,
non, mais pour tourner un film de zombies, ça
par
peut être
exemple.
sympa.
Ouais, pour 10 jours, ça fait 700 000 dollars. Tu peux tourner un film en 10 jours. 700 000
Bah oui.
dollars, c'est rien dans un budget de film aujourd'hui.
Bah voilà, ça y est, on a trouvé
Voilà.
la solution pour notre film de zombies pour Noat. On va louer le Liechtenstein. Allez hop, c'est parti.
Et voilà. Et bah écoutez, il y a une série de plein d'autres news qu'on va pas faire aujourd'hui parce qu'elles sont beaucoup moins importantes. Est-ce qu'il y en a une que tu veux traiter quand même ou c'est bon?
Bah, moi c'était Cisco qui
Ah
est
oui.
Flip. Je trouve ça, voilà, c'est un peu dommage.
Bah vas-y.
Mais en fait c'est Cisco qui a décidé d'arrêter et la commercialisation. Il y avait un service en ligne aussi, il me semble. Flip. Les petites caméras en fait. Ces petites
Numérique.
caméras numériques, voilà, qui permettaient de faire de la vidéo. Alors peut-être pas du podcast, mais aussi pour capturer deux, trois petites vidéos, ça
Ah
peut être
oui,
sympa.
il y en
Qui
avait
faisait du
qui faisaient de la
podcast avec,
HD.
oui. J'ai vu des podcasts d'ailleurs tourner entièrement avec ce type de caméra. Alors je sais pas si c'était les Flip ou le concurrent de chez Kodak qui s'appelait je sais plus comment. Ouais, je trouve ça un peu dommage. Bon, après, c'est peut-être un bide commercial aussi, hein, mais.
Bah, c'est surtout que depuis que tous les téléphones, tous les smartphones du monde peuvent
Bah
faire
ouais,
des
c'est vrai
vidéos
que
aussi.
c'était un appareil qui était un peu sur un marché un peu bizarre, quoi. Voilà.
Ouais. Et en plus, Cisco les avait rachetés il y a quoi, 2 ans, je crois,
Oui.
et personne n'avait compris pourquoi. Et en fait, le président de Cisco s'est platement excusé pour sa stratégie, pour la stratégie de l'entreprise qui était extrêmement confuse et bon que personne n'avait compris et qui avait largement contribué aux baisses de chiffre d'affaires et de bénéfices chez Cisco. Il s'est excusé auprès des investisseurs et il a dit qu'il allait reprendre les choses en main. Enfin,
Aller rembourser tout le monde de sa propre poche.
cette fermeture de Flip fait partie d'une remise en question profonde chez Cisco. Et il faut savoir que Cisco, c'est l'un des plus grands acteurs de l'infrastructure du net parce qu'ils fournissent une énorme partie des routeurs de tous les gros fournisseurs d'accès, enfin de l'infrastructure du net, quoi. C'est vraiment un énorme, énorme acteur de ce monde-là, quoi.
Ouais. Et tu veux une rumeur Apple pour finir?
Allez, vas-y.
Allez, on finit avec une rumeur Apple qui est l'écran de l'iPhone 6 qui serait confié à Sharp. L'iPhone 5 étant même pas encore sorti, mais voilà, et qui intégrerait pas, c'est pas un écran OLED comme on peut s'attendre, c'est plutôt un écran IPSI LCD avec une plus grande longévité et surtout qui permet d'avoir beaucoup moins de connecteurs pour alimenter l'écran et tout ça. Donc ça permet de faire des appareils encore plus fins. Donc voilà, mais surtout Sharp, enfin la news c'était essentiellement que c'est sympa qu'il se rapproche de Sharp parce que c'est font de très très beaux écrans et ont des technologies d'écran qui sont complètement hallucinantes, donc voilà. Oui. Mais a priori, ça serait un peu plus qu'une rumeur, voilà, puisqu'il
oui,
y aurait des choses qui auraient fuité, mais bon, voilà.
Il y a aussi plein de rumeurs sur l'iPhone 5, d'ailleurs...
Le 4S,
Même dans Upload, moi je ne les traite plus, quand c'est vraiment ouais, que des rumeurs, il y en a tous les deux jours, donc... Mais celle-là, oui, c'est un peu plus...
Ouais, c'est un peu plus qu'une rumeur, donc voilà, c'est sympa de voir ces technos débarquer.
Eh ben écoute, ça va le faire pour nos news et donc on va passer immédiatement à la statosphère de Guillaume et sans transition, on laisse la parole à Guillaume pour sa statosphère.
Bonjour à tous. L'Italien Fabio Capello, actuel entraîneur de l'équipe de football d'Angleterre, déclarait récemment qu'il était capable de diriger ses joueurs à l'aide seulement d'une centaine de mots. S'il est peu probable qu'un anglais shakespearien soit indispensable à cette mission, il paraît évident que l'entraîneur dispose d'un vocabulaire dépassant largement ce nombre. En tout cas, cette affirmation reprise par le BBC News Magazine a au moins le mérite de nous en faire savoir un peu plus sur le sujet. Il convient d'admettre qu'une centaine de mots peut s'apprendre en quelques jours. Il est d'ailleurs également convenu qu'un éventail de 1500 mots est suffisant pour communiquer, que le vocabulaire moyen d'un individu est d'environ 20 000 mots utilisés couramment et 40 000 mots assimilés passivement. De plus, il est intéressant de constater que les 100 mots les plus utilisés dans une langue ne permettent pas à eux seuls d'exprimer quoi que ce soit de pertinent. Ainsi, les mots anglais les plus utilisés sont the, be, to, of, and, a, in, that, have, I, it, for ou encore not. Précisons par ailleurs que les jeunes enfants maîtrisent déjà une centaine de mots à l'âge de 2 ans, qu'un étudiant apprenant une langue étrangère maîtrise entre 2000 et 7500 mots, et enfin qu'un chien serait capable de comprendre entre 200 et 300 mots. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr et le compte Statosphere sur Twitter. À bientôt.
Merci Guillaume. C'est si vous voulez retrouver la Statosphere et plein d'autres choses, vous pouvez aller sur statosphere.fr comme il le disait et vous retrouverez le merveilleux monde des statistiques du web et d'ailleurs. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de l'émission.
Ouais.
Cédric, où peut-on aller pour te retrouver ces jours-ci ?
C'est super simple, sur nowatch.net. Et sur mon compte Twitter, donc twitter.com/Cédric Bonnet, en un seul mot, et en minuscule, voilà.
Et bonnet comme un bonnet.
Comme un bonnet qu'on met sur la tête, ouais. Je le précise plus maintenant.
pour ma part, c'est sur nowatch.net aussi, dans différents podcasts, et sur Twitter, c'est notepatrick, note comme note, et Patrick comme Patrick. Et bien sûr, si vous voulez nous laisser des commentaires ou des notes sur iTunes, nous vous invitons à le faire, ça nous fait toujours plaisir. Et si vous voulez aussi aller discuter de l'émission sur le site nowatch.net, c'est depuis qu'on a changé, enfin qu'on a fait le nouveau site, il y a pas mal de discussions souvent intéressantes. Donc on vous invite vraiment à aller y faire un tour parce que ça nous intéresse toujours d'entendre les retours que vous nous donnez et d'entendre ce que vous avez à dire sur l'émission et sur les sujets que nous traitons.
C'est clair, les poditeurs sont très bavards sur le nouveau site.
C'est vrai. C'est parce que le site est tellement beau. Tellement beau.
Oh non, je suis pas sûr, mais on va pas s'en plaindre.
Eh ben écoutez, ça va être tout pour nous cette fois-ci. La prochaine émission, c'est dans un petit peu moins de 2 semaines maintenant, puisqu'on était en retard pour celle-ci. On sera a priori pas en retard pour l'autre, mais pour le découvrir, vous pourrez nous suivre directement sur Twitter et vous le saurez quand on l'enregistre. Ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave, à dans 2 semaines. Ciao, ciao !